Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Oui, il y a des candidats qui utilisent des discours teintés de stéréotypes, tendant peut-être à discréditer les autres candidats, voire même des évidences qui sont, dans l'ensemble, fausses, pour amener à tout prix les candidats à lâcher les autres. Voilà, c'est quand même une mauvaise façon de faire les choses.
Hein. Oui, mais ça, c'est les règles du jeu qui doivent être assez claires. C'est que bon, ici, on fait signer des codes de bonne conduite seulement au candidat président, mais je crois qu'il fallait faire signer le code de bonne conduite.
Même à la députation nationale.
À tous les candidats, il y a un discours que l'on tient. On peut être adversaire et se dire des choses, des vérités, sans s'insulter. C'est ça là, l'élément. Le premier élément, ce sont ces injures-là. Le deuxième élément, c'est lorsqu'on dépasse le caractère simplement injurieux pour inviter justement les gens à la haine. On ne veut pas de celui-là parce que il est de telle ethnie. On n'en veut pas ici parce que leur ethnie, les gens de cette ethnie sentent mauvais, comme on dit. Mm-hmm. On ne veut pas de cette ethnie parce qu'ils sont de petite taille, nous ne voulons pas qu'ils soient élus chez nous. Alors, lorsqu'on commence à sortir ça sur la table, au niveau du grand public, à ce moment-là, ça devient quelque chose de très très dangereux parce que chacun sent à ce moment-là qu'il est en danger et qu'il doit se protéger.
Oui, 081-890-63-94, c'est pour les appels. Faites-nous parvenir déjà vos préoccupations. Vous pouvez également le faire au 081-070-2050 pour le SMS. Et si vous voulez, écrivez-nous à service@radiocapi.net. Nous parlons des dangers d'une campagne électorale tribale.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi, samedi dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Voilà, nous avons pas mal de réactions, en tout cas les gens qui continuent encore à nous appeler partout en République démocratique du Congo. Malheureusement, nous avons encore quelques petits problèmes pour qu'ils passent en direct en ondes. Nous allons revenir à vous d'un moment à l'autre, chers auditeurs, mais nous allons aussi, si vous pouvez, nous envoyer des SMS au 081-070-2050, en attendant que nos codes se rétablissent. Nous parlons avec professeur Thierry Landou, expert en éducation civique et électorale, le danger d'une campagne électorale tribale. Vous avez parlé de deux choses, professeur. Les discours peuvent revêtir caractère injurieux. Ça peut aussi amener les gens, amener les gens à la haine, mais tout en oubliant que, à la longue, tous ces deux éléments constituent des bombes à retardement.
Oui, c'est certainement. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons des élections présidentielles. Nous avons vu en 2006 ce que ça a provoqué. C'était presque un clivage.
Un clivage.
Il y avait un clivage qui n'était même pas idéologique, en fait. C'était un clivage est-ouest. Mmh. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes arrivés, à un moment donné de nos élections, d'avoir un clivage où il y avait les Lingalafones d'un côté et les Solifones de l'autre côté. Et on a vu ce que ça fait comme clash. Donc, dans cette lancée-là, on entendait un discours du genre, ah non, vous les Lingalafones, vous ne nous aimez pas, nous les Solifones, c'est notre tour aujourd'hui, donc vous aussi, vous devez vous taire. Et dans la gestion future de l'État, on a de la peine à recoller le morceau lorsqu'on fait des élections de cette nature-là. Alors, lorsque vous descendez en province, dans les provinces, lorsque vous avez un discours de ce genre-là, ça se recolle difficilement. Parce que là, on va vers la proximité. On n'est plus au niveau de purement national. On va vraiment vers la proximité. Je vous donne un cas. Si demain, il y a des élections, comme on les aura très bientôt, et qu'au moment des proclamations, et parce que ces élections, bon, certains disent sont préparés, vaille que on va y aller, bon, on va y aller. Mais maintenant, on proclame les résultats et que les résultats ne sont pas acceptés par les uns par les autres. Dans un milieu urbain, ça peut opposer deux camps. Mais dans un milieu rural, ça peut opposer deux familles, deux clans. Et à ce moment-là, on ne sait plus quels sont les liens qu'on va avoir. Donc, il y a un danger réel dans cette perspective-là. Et moi, je dis, C'est ça le rôle de l'État. C'est l'État qui doit réguler tout cela. Mais si l'État lui-même entre dans ce processus à travers les animateurs des institutions, parce qu'on est en train de vouloir conquérir un pouvoir, mais ce pouvoir ne vaudra pas grand-chose au moment où on l'aura conquis, parce qu'on passera tout son temps, au lieu de construire le pays, il faudra recommencer, retravailler le tissu humain, le recoller, et ça peut prendre 4-5, ça peut prendre tout un mandat au président, en fait, et vous n'aurez rien construit.
Oui, professeur, je ne sais pas si peut-être des gens qui pensent de cette manière-là, ils sont dans les torts ou à tort ou à raison, parce que quand il y a des injures, il y a la haine, comme nous avons reconnu que c'est quand même, ça constitue une bombe à retardement. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y en a des, par exemple, des conséquences du genre, on est en train d'aménager le sens de développement, par exemple, d'un coin. Nous prenons les cas au niveau de province, par exemple, s'il y a deux ethnies qui se battent pour aller à la députation nationale, et si jamais tel cas l'emporte, et demain, les autres risquent de dire, bon, nous ne participons pas à la chose publique, nous n'allons pas mettre la main à la pâte, et ça va freiner. C'est un frein pour le développement.
Non, mais exactement. Ce n'est même pas dire que je ne participe pas, mais ils détruisent tout ce que vous avez fait. Hein? Donc, systématiquement, ils vous empêchent de montrer que vous pouvez faire quelque chose. Parce que nous ne pouvons le faire qu'en le faisant ensemble. Moi, je crois, et c'est ça l'enjeu des prochaines élections aujourd'hui, c'est que si on va vers la dérive ethnique, vers la dérive tribale. Si on ne dépasse pas le clivage lingalaphone, swahiliphone au niveau national, pour arriver à trouver parmi les Congolais des hommes, des femmes dignes de ce nom, qui sont dans les deux camps, hein, qui sont dans les différentes populations de notre pays, si on ne trouve pas les meilleurs d'entre nous pour animer la société et dépasser ce clivage, ben, on ne s'en sortira pas. Mais il ne faut pas non plus être négativiste, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, quand nous regardons notre vie, et c'est là peut-être que bon, ça ne fait même pas qu'on le cite, mais je crois que c'est la grande force de quelqu'un comme Mobutu hier, c'était cette capacité de mixer les populations congolaises à travers tout le pays, à travers l'armée, à travers les études. Moi, je suis
à travers l'administration
publique. Moi, je suis de Kinshasa, mais j'ai fait mes études à Lubumbashi. J'ai des copains qui ont épousé des filles de Lubumbashi, qui les ont amenés ici, d'autres qui sont restés à Lubumbashi. Et Mobutu a réussi à faire ce brassage qui, même si on ne veut pas lui accorder ce mérite, mais c'est ça qui a fait que nous puissions encore rester ensemble et qu'on dit toujours, quand on parle de balkanisation, on dit non, pas question, nous sommes tous Congolais. Parce qu'il arrive.
Donc, si à cette époque-là, on était vraiment un pays démocratique, je crois que les élections allaient réellement être apaisées. Par rapport à cette unité-là qui était unité, qui était quand même l'unification du pays, qui était quand même visible.
Bah, je peux pas tirer cette conclusion-là, mais seulement je me dis qu'il y avait là un élément, il y a là un fond, qui est un fond qui nous appartient à nous tous. Et je crois qu'on ne doit pas galvauder ce fond-là. On doit continuer à bâtir autour de ce fond. Toutes ces dissensions-là, moi je dis, il faut qu'à un moment donné, et je crois que ça commence à venir, mais de plus en plus, si l'État se construit, tout ceci va s'expliquer, tout ceci va être placé dans une sorte de moule, et on pourra construire des Congolais et des Congolaises, et non plus de la BD, sans toutefois perdre la culture.
Alors, professeur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce que nous constatons sur le terrain est lié au fait au déficit de l'éducation civique au niveau de la population, parce que on a l'impression que la population n'est pas suffisamment éduquée sur le plan civique. Et aussi, bon, l'éducation électorale, si nous mettons ensemble avec l'éducation civique, on conclut qu'il y a ce déficit-là qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui se croient, comme pour reprendre le mot de professeur Yawidi Lupen, qui a comparé tous les Congolais comme des enfants de 9 ans, et ceux qui sont éveillés, trompent ceux qui ne le sont pas. Donc, c'est-à-dire la population, les candidats viennent comme des enfants de 9 ans plus éveillés, et ils trompent leurs manifestants, leurs adeptes.
Bon, je ne veux pas utiliser cette image parce que je ne voudrais pas infantiliser les Congolais, mais je dis ceci, c'est que, effectivement, il y a un déficit. Mais ce déficit, ce n'est pas seulement au niveau de la population, c'est même au niveau des leaders. Mm-hmm. Ce déficit, c'est même au niveau des responsables politiques, au niveau des institutions. Ce déficit, vous le trouvez, regardez, ces élections-ci vont avoir lieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu que la CENI venait de recevoir, je crois, un montant de la coopération japonaise pour faire de l'éducation civique. à deux semaines
de l'élection. C'est impossible.
Non, je crois que ça, c'est vraiment de la façade. Hein, c'est de l'argent qu'on va mettre, qu'on va utiliser pour d'autres fins, pour voyager ou je sais pas quoi. Mais ce ne sera pas pour faire de l'éducation civique. Mm-hmm. Cette éducation civique, c'est quelque chose de permanent. Ça commence à partir de nos maisons. Ça remonte dans les quartiers. Ça remonte au niveau de la commune. Ça va aussi dans les partis politiques. Donc les responsabilités sont partagées.
C'est que, pourtant, il y a des ONG, il y a des acteurs de la société civile qui travaillent dans ce secteur-là, mais malheureusement, ils n'ont pas de moyens.
Oui, mais le problème aussi de structures des ONG, c'est quoi? C'est que les structures des ONG dépendent des moyens qui doivent venir de l'extérieur. Et les ONG, ben, ils changent de thématique selon les moyens qu'on leur donne.
Le financement interne, il n'y a pas.
C'est l'État.
Intérieur, c'est l'État qui doit.
L'éducation civique, c'est une affaire de l'État congolais. Ce n'est pas l'affaire des ONG internationales qui vont aider quelques ONG congolaises à gauche et à droite.
Même le cours d'éducation civique à l'école, c'est supprimé.
Bon, ça existe, mais le problème, c'est quelle est
l'importance. Les contenus, moi,
quelle est l'importance qu'on donne à ce cours? Il existe même jusqu'au niveau de l'université, avec d'autres dénominations. Mais qu'est-ce qu'on y met comme contenu? C'est ça aussi l'enjeu. Donc, le problème de ce déficit, c'est que c'est un travail à faire. Et ce travail est de longue haleine. On n'éduque pas un peuple en deux semaines. Hein, on ne forme pas sur le plan électoral en deux semaines. Non. Là, c'est juste vraiment pour essayer de se donner bonne conscience.
Voilà. Encore une fois, nous remercions tous les auditeurs qui, en tout cas, c'est vaincu à pouvoir réagir, à nous faire parvenir leurs préoccupations. Malheureusement, nous avons encore quelques petits problèmes avec nos copines pour vous passer en onde. Nous allons prendre la réaction de Cédric Mambola à Dungu, qui nous a écrit. Et vous pouvez également le faire, nous envoyer un SMS au 081 070 20 50. Cédric Mambola Dungu dit ceci: professeur Thierry, je voudrais savoir si c'est possible que l'on se débarrasse des campagnes électorales tribales ou identitaires en République démocratique du Congo. Est-il important de connaître les origines du candidat lors des campagnes électorales? Même les grandes démocraties s'en réfèrent aussi, mais que faire?
Non, c'est vrai. Pour l'instant, je ne vois pas comment. C'est pour ça que je dis que c'est une démarche de longue haleine. Hein, c'est-à-dire que nous partons de quelque part. Nous partons justement de cette recherche identitaire. Nous partons de ce refuge. Nous nous réfugions dans le clan parce que nous ne pouvons plus nous réfugier dans l'État. Nous n'avons aucune sécurité au niveau de l'État et la sécurité se construit au niveau clanique, au niveau tribal. C'est là qu'on vous scolarise, c'est là qu'on vous donne les moyens pour pouvoir survivre. C'est là qu'on assure même votre sécurité quand vous êtes arrêté, c'est tout le clan qui va se mobiliser pour vous ou toute la famille. Donc l'État, qui n'est pas un État de droit aujourd'hui, ne sécurisant pas, ben, on s'est réfugié là-dedans. Mais pour s'en débarrasser, il faut recréer l'État de droit. Il faut remettre en place l'État de droit. Je dis toujours, il faut que dans ce Far West qui est devenu le Congo, qu'on remette le shérif. C'est à partir du moment où il y aura un shérif que l'État va fonctionner et l'État va commencer à construire justement cette structure qui va aller au-delà de nos appartenances identitaires sans les supprimer. Parce qu'il ne faut pas supprimer non plus ces aspects identitaires qui sont une richesse immense.
Un peuple sans culture, c'est...
Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Hein, c'est cette diversité qui fait que nous soyons Congo. Mais cette diversité, il y a moyen de l'utiliser positivement comme négativement. Mais cela dépend énormément du rôle régulateur de l'État, et l'État ne joue pas ce rôle régulateur jusqu'ici, c'est ce qui fait qu'on voit toutes ces manifestations. Mais il y a aussi une autre démarche que l'on peut faire. C'est une démarche, par exemple, au niveau des grandes églises. Une église comme les églises catholiques, protestantes, kimbangistes, peuvent construire justement au-delà de ces aspects purement identitaires et construire au niveau de notre croyance. C'est une perspective. Les partis politiques peuvent construire au niveau de notre idéologie. Mais au fait, pour arriver à une certaine idéologie, l'idéologie, ce n'est pas seulement les grands chefs qui doivent la maîtriser. L'idéologie est un rêve qui doit être partagé avec la population. Il faut que la population aussi communique à cette idéologie, comprenne de quoi il s'agit. Mais je crois que nos idéologies sont tellement de façade, sont construites au-delà de nos populations, et c'est ce qui fait qu'il y a une rupture. Les idéologies, il y a deux partis, de gauche, de droite, de centre. Dernièrement, il y a un parti qui a dit à ses militants, nous allons voter à gauche. Mais les militants, à la base, étaient perdus. Parce qu'à gauche, ils ne savent pas ce que c'est, la gauche. La gauche, c'est juste dans la tête de quelques dirigeants. Donc, cette idéologie qui aurait pu nous fédérer pour ressortir justement de ces aspects purement identitaires au moment des élections, mais cette idéologie, elle est gauche elle-même.
Mais est-ce que n'est-ce pas là, disons, professeur, on assiste à ce que nous appelons l'effet, les causes à effet, où carrément les mêmes causes produisent les mêmes effets, parce qu'on a vu, la fois passée, un candidat utiliser des discours à caractère tribal, et ça a marché, moi j'y vais aussi, j'utilise les mêmes tactiques, les mêmes stratégies pour arriver à la députation nationale.
Oui, mais ça marche parce qu'il y a un fond, comme je l'ai dit. Hein, ça marche parce qu'il y a un fond. Et ça marche énormément dans les milieux ruraux. Bon, mais ça marche de moins en moins dans les milieux urbains. Hein, parce que là, bon, avec le brassage...
C'est le cosmopolite.
Oui, le brassage des populations. Oui. Nous tous, dans nos familles, nous sommes mariés à d'autres ethnies. Oui. Et nous avons des enfants qui se marient aussi à d'autres ethnies. Ce qui fait que cet aspect purement identitaire où on se colle à sa propre ethnie, bon, ça commence à ne pas prendre. Au niveau urbain. Mais lorsque vous rentrez dans le milieu rural, là, les gens sont encore collés à cela. Et les leaders véreux, parce que, excusez-moi d'utiliser le terme, mais ce sont vraiment les leaders véreux, ben, ils exploitent cette fibre-là, en disant, écoutez, c'est notre tour. Nous devons y être. Nous y sommes. Et c'est grâce à vous que nous serons là. Il y en a qui arrivent même à compter les voix. On peut compter, on dit, nous sommes les plus nombreux. Si nous votons de manière organisée, ben, nous placerons des gens au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de l'Assemblée provinciale. C'est de bonne guerre, comme je dis, mais le danger, c'est comme tu as dit, c'est cet effet boomerang par après.
Oui.
Il faut savoir justement positionner les choses, faire de sorte que nous puissions aller au-delà simplement de cet aspect identitaire. Moi, je dis que c'est, à mon avis, c'est transitoire aujourd'hui. Mais le Congo de demain ne se construira pas sur cette base-là. Je crois que de plus en plus, on est en train d'aller. Je vois par exemple le travail qui est en train de se faire dans les milieux d'église, de l'église catholique, pour ne citer que celle-là. On est en train d'aller vers. Des candidats de valeur, des candidats qui représentent quelque chose sur le plan humain. Tout à l'heure, on a dit qu'il faut aller chercher à connaître les origines.
Les origines, voilà.
C'est pas les origines civiles qu'il faut aller rechercher. C'est qu'il faut
chercher. Comprendre le projet.
Non, pas seulement ça, mais connaître l'homme, connaître la femme qui se présente devant vous. Qui est-il? Où est-il né? Quelles sont les études qu'il a faites? Comment il vit en famille? Il est marié à combien de femmes?
Qu'est-ce que nous attendons de lui?
Quelle est son expérience? Hein, où il a travaillé où? Là, on doit connaître, on doit commencer à connaître ça. Et si on se lance dans un processus de ce genre, à ce moment-là, il ne suffit pas d'être de mon clan. Il faut que tu sois le meilleur. Que tu représentes toutes ces valeurs auxquelles nous commençons à croire tous ensemble. Et si nous entrons dans ce mécanisme, dans ce processus-là, à ce moment-là, on ne dira pas il a été élu parce qu'il est de tel ethnie, mais il a été élu parce qu'il remplit les conditions pour pouvoir exercer cette fonction et l'exercer non pas seulement au profit de son ethnie, mais au profit de tout l'ensemble du pays.
Voilà, professeur Thierry, il y a beaucoup à dire là-dessus. Hein, nous rappelons à nos auditeurs que nous parlons avec vous des dangers d'une campagne électorale tribale. Et nous avons reçu beaucoup d'appels, malheureusement, disons tous ces intervenants ne sont pas passés en onde. Ce n'est qu'une partie remise, nous allons revenir très prochainement. Nous vous remercions infiniment d'avoir accepté de terminer la semaine avec vous, avec nous, avec ce sujet, autour de ce sujet. Nous prenons rendez-vous avec vous, pas la semaine prochaine, avant la fin de la campagne électorale, pour revenir encore sur des sujets et entrer à l'éducation civique et l'éducation électorale. Merci professeur Thierry et à très bientôt.
Merci beaucoup.